Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez Sophie Durocher.
Vous savez, nos écoles, certaines de nos écoles, pas toutes, sont équipées de capteurs de CO2 pour nous indiquer si justement la circulation d'air se fait bien dans les écoles. Mais à l'Ordre des chimistes du Québec, on se pose de nombreuses questions face à ces capteurs de CO2. On va parler de tout ça avec Michel Alsayer. Il est président donc de l'Ordre des chimistes du Québec. Monsieur Alsayer, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de la situation des capteurs de CO2? Est-ce qu'ils sont bien installés? Est-ce qu'on lit bien les résultats? Est-ce qu'on les analyse bien? Comment ça se passe sur le terrain?
Ben, pour ce qui est de l'installation, bien sûr, là c'est encore gros mystère pour nous, puisqu'on ne sait pas qui a installé, comment ça a été installé. Comme vous savez, c'est quand même, ça peut paraître un peu banal, l'endroit où ça a été installé, mais c'est central. Je vais utiliser une analogie, c'est comme au détecteur de fumée. L'endroit où vous l'installez, ce fameux détecteur, que ce soit dans votre cuisine, près de votre poêle ou près de votre porte de sortie, ben ça va donner des résultats bien sûr extrêmes. Seul un pompier ou avec expérience va probablement vous donner la meilleure idée possible de où devrait être installé votre détecteur de fumée durant sa ronde. Alors un peu la même chose ici au niveau des détecteurs de CO2. Si on les a dans un endroit qui est plus près, plus loin de la fenêtre, un endroit où l'air peut être un peu stagnant, parce que comme vous savez, la turbulence des gaz est importante. Puis à partir de là, on peut voir où est-ce qu'il y a des endroits peut-être où c'est plus stagnant, d'autres où ça l'est moins. Donc sans aller dans trop de détails, ça peut faire une différence énorme l'endroit où le détecteur peut être placé, aussi la hauteur, même chose. Et faut pas oublier ici qu'on lit le CO2, mais ce qu'on veut en réalité, ce qu'on veut avoir, c'est une corrélation entre la quantité de CO2 dans la classe et l'utiliser pour savoir si l'air circule et si il y a le virus et si le virus justement ne stagne pas ou se déplace et idéalement sort de la dite classe. Mais bon, le CO2, c'est un gaz. Le COVID se transmet par aérosol, comme on sait aujourd'hui. Un aérosol, ben ça contient un liquide. Donc, vous comprenez, la manière de transmission et le corollaire peut être quelque peu boiteux quand même à ce niveau-là. Mais, pour en revenir au détecteur de CO2, excusez, c'est une longue réponse ici, mais pour
non,
en revenir
mais j'aime ça.
De CO2,
oui.
La calibration de l'instrument, parce que comme vous savez, un instrument après un certain temps doit être calibré, c'est-à-dire remettre les spécifications d'origine. Qui l'a fait? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été bien fait? Aucun encadrement à ce niveau-là. Il faut que ce soit fait de manière professionnelle, encadré, pour justement éviter toutes les conséquences aux enfants, puis bon, les maux de tête aux professeurs sans faire de jeu de mots avec le dioxyde de carbone. Puis les dangers, bien sûr, de propagation, que ce soit le virus ou le froid.
D'accord. Ben écoutez, moi j'adore quand un invité me fait une longue réponse parce que ça me permet d'aller chercher plein de petites choses dans sa longue réponse pour pouvoir continuer l'entrevue. Donc moi j'adore votre analogie avec les détecteurs de fumée parce que c'est quelque chose qu'on peut tous comprendre et on comprend fort bien l'image puisqu'on théoriquement on a tous des détecteurs de fumée chez nous. Ce que vous nous dites essentiellement, c'est qu'il y a plein d'étapes où on ne s'est pas assuré d'optimiser les détecteurs de CO2. Moi, ce que je veux savoir pour commencer, là, l'Ordre des chimistes, vous, à quel moment vous avez été consulté et est-ce que vous avez été consulté de la bonne façon pour justement l'installation et l'analyse des capteurs de CO2?
Eh bien, nous, déjà, lors des premières consultations avec le ministère de l'Éducation, lors du plomb dans l'eau, on a ils nous ont fait part qu'il y avait possibilité d'achat de détecteurs de dioxyde de carbone pour les classes. On leur a demandé de faire partie de la table de concertation avant que les choix soient faits, de façon à ce qu'un chimiste soit assis à la table. Chimiste, je parle ici, bien sûr, avec ingénieur, et on y va comme ça pour voir qui peut être là pour faire en sorte que la décision soit la plus éclairée possible avant la sortie ou la publication de l'appel d'offres. L'appel d'offres a été publié sans qu'on soit consulté. Les chimistes n'ont pas fait partie de la consultation. Donc, ce qui a été acheté, on le suit après, qu'il y avait un contrat de 75 millions qui a été fait pour l'achat de ces détecteurs de CO2. Et nous, on a été exclus du processus.
OK. Moi, je suis en ce moment assise sur ma chaise. Et ce que vous venez me dire, ce que vous venez de me dire me fait tomber en bas de ma chaise. Parce que je ne comprends pas qu'on dépense 75 millions de dollars de fonds publics et que vous, qui êtes des spécialistes de la chose, alors que vous avez exprimé l'importance d'être à la table avant qu'on fasse les appels d'offres, on vous a pas consulté. C'est broche à foin, là.
Exactement. Puis ensuite, la raison qu'on nous a donnée, en gros, c'est, ben, cher ordre des chimistes, ben, ici, on parle plus d'une question de confort seulement. C'est pas une question de santé ou de sécurité. C'est vraiment une question de confort. Alors, c'est la raison pour laquelle on a été exclu du processus. D'ailleurs, dans la publication ou les documents qui ont été publiés, on parle effectivement de questions de confort plus que d'autres choses.
OK, ben là, j'étais déjà tombée en bas de ma chaise. Là, je sais pas ce que je peux faire de plus, là. Vous me donnez des convulsions ou vous me donnez de l'urticaire quand j'entends ça? Parce que la façon dont ça nous a été présenté, c'est que ces capteurs-là étaient extrêmement importants, parce que c'est en se basant sur la lecture, justement, des capteurs de CO2 que les professeurs à l'intérieur des classes sont capables de dire, bon, ben, on a atteint un taux qui n'est plus acceptable, donc la circulation d'air ne se fait pas suffisamment à l'intérieur de la classe, donc je vais ouvrir les fenêtres même s'il fait moins 92 dehors. Donc, ce que vous nous dites, c'est que de toute façon, à la base, si on n'a pas acheté les bons capteurs de CO2, si on les a pas installés à la bonne hauteur, si on les a pas installés au bon endroit, tout ça est caduque, c'est même pas une bonne lecture de la pièce.
Vous avez fait un bon résumé. C'est exactement la même, encore là, j'utilise mon analogie du détecteur de fumée. C'est certain que ce ne sera pas un bon indicateur s'il est mal placé, effectivement. Puis tout autre indicateur, indicateur de température, indicateur de... Il faut quand même que ce soit un endroit névralgique. Et puis ici, on parle d'un instrument qui va donner un résultat. Donc, on a un chiffre. On n'a pas juste un positif, négatif, on a un chiffre. Ce chiffre-là doit être interprété. Il veut dire quelque chose. Et en plus, là, pour peut-être ajouter à ça, on détermine la quantité de CO2 dans une classe. On sait tous que le CO2, c'est pas une substance qui est nécessairement bonne pour la santé. C'est quelque chose qui peut réduire ou augmenter l'anxiété chez l'enfant, à la limite, puis même jusqu'aux facultés cognitives. Alors, on respire dans ces masques-là en longueur de journée. Pour les enfants encore plus. Puis moi, personnellement, j'aurais aimé vraiment que ce détecteur-là soit efficace et que la valeur soit, on peut s'y fier, ne serait-ce que pour le CO2. Parce que comme j'expliquais, pour le COVID, bon, ça donne une idée générale. Mais on s'entend, c'est une idée très générale à ce niveau-là.
OK, alors je vais vous poser la question de façon beaucoup plus claire, Monsieur Al-Sayed. Est-ce que... Dans une classe, quand on fait face à une pandémie de COVID qui se transmet par aérosol, est-ce que c'est pertinent d'avoir des détecteurs de CO2 ou est-ce que ce serait pas plus pertinent d'avoir des purificateurs d'air?
Il faudrait pour que ce soit efficace, peut-être plus un échangeur. Là, je sais qu'à ce niveau-là, c'est beaucoup plus difficile. Je ne suis pas spécialisé en aérosol. Je sais qu'on en a. On a certains chimistes qui le sont. Mais pour ce qui est des détecteurs, ça va donner, comme je vous dis, une idée générale du niveau d'échange de l'air dans la classe. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même boiteux, mais ça va au moins donner cette cette indication-là. Si on veut aller plus loin via des échangeurs d'air, où est-ce que là, mais il faut quand même bien s'assurer que ces échangeurs d'air-là, il y a un entretien qui se fasse, que ce soit au niveau des filtres, pour s'assurer qu'il n'y a pas de point de saturation, et aussi de s'assurer que la recirculation de cet air ou ce qui va sortir de la machine ou de l'échangeur d'air, pardon, doit être quand même, par rebond, faciliter cette transmission-là par la poussée d'air qu'elle va créer. Alors, c'est des choses qu'il faut, auxquelles il faut penser avant d'agir, que ce soit au niveau, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des niveaux des chimistes, ben, pour être consulté et faire partie de cette table de concertation-là pour justement arriver avec une solution, avec un grand S, ce qui pour moi n'est pas vraiment le cas présentement parce qu'il semble qu'il manque des choses dans le processus.
Il y a eu un manque au niveau des processus et ça, vous, comme professionnel, c'est décevant de la part du gouvernement, d'autant plus que c'est pas comme si le gouvernement vous avait demandé votre opinion, que vous aviez dit non, ça nous intéresse pas de participer au processus. Ouais. Au contraire, vous avez non seulement offert, mais vous avez insisté sur l'importance que vous y soyez associé. Je vais juste vous raconter une anecdote, c'est juste drôle parce que en ce moment, mon fils, dans ses cours de physique chimie, est en train justement d'étudier toutes les combinaisons de molécules, puis le H2O, puis le CO2, puis le dioxygène, puis toutes ces patentes-là. Et je trouve ça assez ironique parce que je me dis, pendant que mon fils est dans une salle de classe en train d'étudier justement ça, peut-être qu'il y a dans sa classe un détecteur de CO2 qui est pas calibré comme il faut, qui est pas installé au bon endroit, qui est pas installé à la bonne hauteur. Donc, c'est pendant qu'il y a des professeurs de chimie dans les écoles au Québec qui apprennent aux élèves comment ça fonctionne, ben le ministère de l'Éducation le comprend peut-être moins bien qu'un membre de l'ordre des chimistes. Vous comprenez ce que je veux dire?
Absolument. Puis nous, c'est certain qu'on trouve ça d'autant plus déplorable que, bon, je me répète, je sais, je le dis souvent en entrevue, mais vous savez, l'ordre professionnel a un seul but, c'est la protection du public. Aucun,
c'est
vrai. On n'a aucun avantage, on n'a rien au niveau pécunier, on n'a pas d'agenda caché ni rien, c'est vraiment juste la protection du public et puis, dans le cas présent, de nos enfants.
Oui, alors ça, c'est important et j'adore ça. Chaque fois que je fais une entrevue avec quelqu'un qui travaille pour un ordre professionnel, de rappeler ça aux gens parce que dans l'esprit d'une bonne partie de la population, cet aspect-là des ordres professionnels est totalement méconnu. Les gens pensent que les ordres professionnels sont là pour protéger les professionnels et ne savent pas cette information-là. Donc moi, je vais jamais reprocher à un président d'ordre de rappeler cette donnée-là. Les ordres professionnels sont là pour protéger le public. C'est votre mandat, en fait, c'est votre seul et unique mandat.
Exactement.
Et quand vous nous parlez aujourd'hui, vous êtes pas là pour prendre la défense de parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes fâché de pas avoir été consulté au moment de l'appel d'offres, c'est pas parce que l'ordre aurait été rémunéré ou que vous auriez eu un avantage à le faire, c'est parce que vous préoccupez de la santé des enfants.
Exactement, c'est ça. Puis effectivement, on dit souvent en entrevue, un ordre professionnel n'est pas une association, n'est pas un syndicat. On n'est pas là pour nos membres, on est là pour justement réglementer la profession pour s'assurer que le public est protégé. Point à la ligne.
Ouais. Si vous aviez en face de vous le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qu'est-ce que vous, de façon succincte, là, si vous aviez un message direct et punché à lui soumettre, vous lui diriez quoi par rapport à la situation des détecteurs de CO2 dans les classes?
Ben, je commencerais au moins à dire qu'il n'est peut-être pas trop tard au moins pour prendre des mesures correctives et puis d'impliquer les bons professionnels aujourd'hui. Dans ces dites mesures correctives, c'est-à-dire aller voir ce qui a été acheté, s'assurer qu'une calibration adéquate est faite. On parlait même d'accumulation de poussière sur le dit instrument qui donne des résultats erronés. On voit jusque-là là, dans certains articles de journaux que j'ai lus, parce que vous savez bien sûr que s'il y a plein de poussière, ben la lecture de gaz que vous avez dans la pièce est erronée. Alors, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un avec une conscience analytique qui va arriver, qui va dire, regardez, OK, cet instrument-là, je sais comment l'utiliser, je sais comment optimiser sa, son efficacité, et puis à partir de là, trouver la bonne pièce dans le bon endroit, etc. Ne serait-ce que ça, et de recommander une calibration régulière pour faire en sorte justement que le dit détecteur va être utilisé à bon escient. Ne serait-ce que ça, ce serait déjà beaucoup. Bon, plus que ça, ce serait de voir éventuellement de s'assurer d'impliquer les bonnes personnes dans le processus, mais au début. Ça devient un peu lancinant pour nous, malheureusement. C'est arrivé pour le CO2, comme je viens de le mentionner.
La même chose
pour les analyseurs d'eau. Ben, c'est ça, c'est un petit peu déplorable parce qu'on arrive après à une conclusion qui dit, ben, on vous l'avait dit, on était là même du début, là. C'est pas comme si on a dormi dessus. On était là. On a voulu faire partie de la table de concertation pour s'assurer que ce qui va être fait de manière correcte. Bon. Alors, c'est ce que je lui dirais, disons.
Oui, puis peut-être qu'on peut offrir aussi au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de venir assister à un cours de physique-chimie dans la classe de mon fils pour qu'il apprenne comment ça fonctionne, le CO2, puis le H2O et tout ça. Peut-être que ces cours de physique-chimie sont loin derrière les molécules, les atomes, tout ça. Et quand on passe d'un stade liquide à un stade gazeux, etc., etc., peut-être qu'il y a besoin d'un petit cours de chimie, de rafraîchir ces notions de chimie. Monsieur Al-Sayed, Michel Al-Sayed, je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des chimistes du Québec. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui et de nous rappeler ces principes de base et surtout tirer la sonnette d'alarme en disant, ben écoutez, on n'a même pas été consulté et l'importance aussi de bien placer les détecteurs de CO2 dans les classes. Merci beaucoup.
Merci, Madame Durocher. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bon, ben c'est comme ça que se termine l'émission. Hein? J'en reviens pas. 73 ou 75 millions de fonds publics, puis l'Ordre des chimistes qui demande à être sur la table de concertation, qui est même pas appelé. C'est vraiment géré en broche à foin. Merci beaucoup à Jean-François Paquet. Je vais essayer de me décrinquer. Jean-François Paquet, donc, est à la mise en onde, à la réalisation. Julien Boutillier, qui est à la recherche. Merci à vous de partager vos indications aussi avec moi, et on se retrouve demain.